Mesdames et messieurs, ladies and gentlemen, merci d'être venus ici ce soir à la table de Vito Alessi, à la table du cardinal,
à la table de Vito
et Catherine, c'est important. Vous allez ce soir déguster un menu spécial qui a été concocté par Vito, qui s'appelle le menu « Qu'est-ce qu'on déguste ?». Alors pourquoi le menu « Qu'est-ce qu'on déguste ?». Tout simplement parce que l'émission à laquelle vous allez assister, peut-être malgré vous pour certains, en même temps que vous dégusterez tout ça, s'appelle « Qu'est-ce qu'on déguste ?». C'est une émission de radio qui est diffusée tous les vendredis de 17h30 à 19h et tous les samedis à midi sur CFM Radio, qui est la radio rock Nord-Midi-Pyrénées. C'est une émission de radio qui est très suivie et que vous pouvez retrouver aussi sur Internet, sur cfmradio.fr et sur qu'est-ce-qu'on-déguste.com. Et à partir de maintenant, on va commencer l'enregistrement de cette émission qui va se dérouler en trois parties, trois fois 25 minutes, qui nous permettront à chaque fois de déguster l'entrée, le plat, le dessert, à chaque fois sur une partie différente, et de faire connaissance à la fois avec Vito, son travail, mais aussi avec les gens avec qui il travaille, comme ici, par exemple, Bernard Bouissou, du domaine
de la Fage.
Voilà, donc l'émission va démarrer à partir de maintenant et on va l'enregistrer comme si on était en direct à la radio.
Et ça sera diffusé quand ?
Et ça sera diffusé ce vendredi à 19h30 sur. À 17h30, et j'ai encore rien bu, sur CFM.
Et allez, rediffusé samedi. À midi, 13h30.
C'est ça. C'est parti. Merci Aurélien de lancer le générique.
Qu'est-ce qu'on déguste ? Vous est présenté par Vinovali, union des caves de Fronton, de Técou, des Côtes d'Olt et des vignerons de Rabastens. Vinovali, les vignerons d'Ovalie.
Hola. Hola todo el mundo. Ahora, el momento tanto esperado.
Qu'est-ce qu'on déguste ? Bonjour. Ou plutôt, bonsoir, puisque ce qu'est-ce qu'on déguste est enregistré à la table du cardinal. Nous sommes à Montpezat-Quercy en compagnie de Pascal Olivier, bonjour.
Salut à tous.
Christophe Bory est présent.
Bonsoir tout le monde.
Gaël Stenbach est là.
Bonsoir.
Et Georges Bonfils.
Bonjour tout le monde.
Autant dire qu'avec Aurélien à la technique, l'équipe de qu'est-ce qu'on déguste est au grand complet. Aujourd'hui pour répondre à l'invitation de Vito Alessi, le chef de la table du cardinal. Bonjour Vito.
Bonsoir à tous.
Merci de nous accueillir.
Merci à vous.
Autour de la table également, Joël Mouriot, que à CFM on connaît bien puisque c'est un ancien de la maison. Salut Joël.
Bonsoir ami.
Et si tu es là avec nous aujourd'hui, c'est aussi parce que avec notre spécialiste jazz à l'émission, Georges, vous avez monté un festival de jazz à Montpezat-Quercy.
Bleu Trompette.
Voilà, le festival Bleu Trompette, tu nous en parleras tout à l'heure. Le menu que va nous présenter Vito dans un instant, qu'il va nous proposer pendant toute cette émission, c'est un menu, dégustation vin aimé. Et pour les vins, eh bien, c'est le domaine de la Fage qui s'y colle avec Bernard Bouissou, qu'on connaît bien sur CFM Radio pour l'avoir reçu à de nombreuses reprises. Salut Bernard.
Bonsoir à tous.
Merci d'être là. Bonjour Nicole, merci d'être là aussi et de participer avec nous à ce repas. Si, si, regardez, hop, je peux vous en trouver un micro, hein, si vous m'énervez. Et voilà.
Il y en a.
Il y en a. Voilà, je crois qu'on est plutôt pas mal.
On est bien.
Moi, je vous propose que traditionnellement, comme on le fait à chaque début d'émission, on trinque et on lève nos verres à ce qu'est-ce qu'on déguste. C'est qu'est-ce qu'on déguste et ça commence comme ça.
Tout le monde trinque. Ah, bien.
Santé à tous.
À là-bas,
tout le monde. Rémi.
Moving forward, letting go. I see it clear. It's telling me tomorrow is just another story. It's all around. I feel it now. I know that in a moment I can turn.
les Trublions des Klaxons, qui sont de retour avec un album de pop dynamité. C'est pour nous mettre dans l'ambiance comme ça, festive de ce repas. Les Klaxons,
c'est de la popette.
Mais oui.
Hop, hop. Hop, hop, hop.
Alors, donc, qu'est-ce qu'on déguste exceptionnel, spécial, à la table du cardinal? Et pour la
en
première
public.
Fois, pour la première
oui,
fois.
Oui, c'est vrai.
En public.
Enfin, public, enfin
pas, déjà... pas la première fois en public, mais la première fois.
Officiellement.
Une... Avec une salle de restaurant qui va manger au même rythme que nous, qui va déguster les mêmes choses
et
que
les
nous.
Et les mêmes choses que nous.
Et c'est une idée de Vito.
Bravo,
bravo
parce
Vito
que là,
d'avoir
ça
eu cette
nous
idée.
Manquait au palmarès, donc
merci
c'était vraiment
vous.
Très bien.
Alors.
Qu'est-ce qu'on va déguster justement?
Oui, ah bah oui, tiens.
Bah.
On va commencer par une petite mise en bouche. Alors, ça sera un foie gras poché à l'AOC, justement, que Bernard m'a fourni, vin rouge. Ensuite, on part sur un foie gras plus que mi-cuit. Et dans la même assiette, on aura un saumon gravlax revisité par mes soins. Voilà, alors, le saumon gravlax, c'est un saumon qui est mariné, donc c'est une spécialité scandinave. Donc là, il est mariné avec du gros sel. En l'occurrence, j'ai mis du sel de Guérande. J'ai mis également du sucre. Moi, j'ai choisi de la cassonade. Voilà, pour lui donner un petit goût assez sympa, assez subtil. J'ai mis des zestes d'agrumes. J'ai mis de la vodka aussi.
Tant qu'à faire.
Le saumon, j'avais peur qu'il s'ennuie, donc j'ai mis un petit peu de vodka avec. Et surtout de la betterave cuite râpée dedans. Donc voilà. Alors on malaxe les filets de saumon avec tout ça. Donc et puis après on le met dans un bac gastro ou un bac un moule à cake par exemple à la maison, voilà. Papier sulfu, il faut mettre un poids dessus pendant 48 heures au frais.
D'accord.
Après on le sort et on le passe à l'eau froide pour enlever tout l'excédent de sel. On l'essuie avec un torchon et puis bah après il sera découpé en fines tranches avec une petite sauce agrémentée que j'ai concocté.
À suivre, ça c'est le saumon gravlax.
C'est le saumon gravlax, ouais, revisité par mes soins. Ouais.
Au dessert, il y aura.
Le plat. Alors
pardon.
Vu que nous sommes dans le Quercy et qu'on a un agneau qui est franchement exceptionnel ici, je vous ai concocté un agneau du Quercy avec une demi-tête d'ail de Beaumont-Lomagne, de l'ail frais que je suis allé chercher chez un petit producteur là-bas. Et donc, alors moi la particularité de l'ail, moi j'aime bien quand il est bien frais. Je le coupe juste en deux, je mets juste un petit peu d'huile d'olive, de la fleur de sel, un peu d'herbe de Provence et je le passe au four. Voilà, donc ça va accompagner le fameux agneau du Quercy.
Ouais.
Et à côté, bon, en accompagnement, on aura un millefeuille de pommes de terre agata, donc gratin dauphinois revisité. Voilà. Et j'ai fait un petit flan de courgettes jaunes et vertes avec des champignons que j'ai fait griller avant. Et on aura tout ça dans l'assiette.
Affaire à suivre.
Et une demi-carotte glacée.
Tu nous parles pas du dessert. On y reviendra.
Le dessert,
après.
De toute façon, ça sera un petit clin d'œil avec le Quercy. On reste dans le Quercy ce soir.
Peut-être, avant de commencer, ce qui serait bien, c'est que tu nous parles un petit peu de toi, de ton histoire, Vito. Qu'est-ce qui fait qu'un gars qui a l'accent du dessus de la Loire, et même bien au-dessus, là-haut, arrive ici, à Montpezat-Quercy, dans le Tarn-et-Garonne, dans le Quercy?
Alors, qu'est-ce qui fait les rencontres, parce qu'on fait des rencontres
Déjà ton parcours.
Dans notre vie. Mon parcours, j'ai commencé en région parisienne. Donc mes parents avaient un bar-restaurant et bon, je les voyais travailler. Moi, je me suis toujours dit, jamais je fasse métier de bip. On va pas dire le, on n'a pas le droit à la radio. Et donc, j'en suis revenu parce que à 19 ans, j'ai monté ma première affaire avec mon frère en région parisienne. Donc on avait monté une brasserie et puis je me suis mis à la popote entre guillemets au départ parce que c'était vraiment de la popote, hein, c'était de la cuisine de brasserie. Et le fait est, c'est que j'ai croisé beaucoup de chefs après par la suite. Donc je me suis un peu nourri de tout ça, de toutes ces expériences. En 97, je suis parti en Bretagne. Là, j'ai monté un traiteur à la base. Ensuite, je suis reparti dans la restauration. J'ai monté un pub Guinness aussi.
Voilà, ah, oui, la seule chose, ouais.
Ouais, mais c'était assez sympa parce que je faisais des soirées aussi à base de. On faisait des soirées musicales soirée avec voilà, soirée bah, mousse,
ouais, Guinness.
Exactement, bah, non, Guinness, Beef to Guinness, voilà, voilà tout ouais. à fait. Avec des musiciens celtes et puis bah bon après par la suite je suis parti pendant 3 ans sur Cannes où là j'ai monté un restaurant événementiel. J'ai rencontré beaucoup de chefs étoilés, pareil, bon bah ça a toujours été des échanges, je me suis nourri de ce qu'eux faisaient, moi je leur transmettais un petit peu mon savoir aussi, ça a toujours été un échange. Et puis comment j'ai atterri ici, j'ai rencontré un Tarn-et-Garonnais il y a plus de 25 ans en région parisienne, qui m'a fait découvrir la région et je suis tombé amoureux de cette région. Voilà. Donc Christophe Fonta, si tu nous entends, un petit clin d'œil. Hein. Et voilà. Donc après j'ai atterri ici. Ça a vraiment été un coup de cœur quand je suis arrivé à Montpezat, que j'ai visité ce restaurant.
Ça existait déjà, ça portait déjà ce nom-là, la table
oui,
terminale.
Oui, ça portait déjà hein ce nom-là. Ouais. Ça avait été exploité pendant 4 mois, mais bon, la barre avait été mise très très haute pour la région et surtout pour le village. Donc voilà, moi j'essaie de faire une cuisine avec du produit local. Bon, puis tout mon savoir. Donc on a un truc qui marche très bien à la carte, c'est le foie gras homard que vous avez déjà goûté une fois, il me semble.
Ah bah oui,
voilà. Donc ça c'est
mon collègue.
Ouais, c'était au 500 à la Toc, ouais. Chez Xavier Charot. Coucou Xavier, on pense à toi aussi. Et puis donc j'aime bien associer, donner un petit clin d'œil au parcours que j'ai fait aux régions que j'ai parcourues et essayer de retranscrire dans l'assiette justement avec les produits régionaux.
Pas mal, là. Hein, Pascal.
C'est pas mal.
C'est
plutôt
mal.
Plus que bien, même.
Voilà. Vous prenez le train en marche, on est à la table du Cardinal à Montpezat de Quercy. Et qu'est-ce que tu dis ? Vas-y.
Faut que j'aille travailler un petit peu, quand
ah
même.
Oui, hein? Alors j'allais te dire, justement, mais il faudrait pas que tu ailles travailler un petit peu.
Si, justement, c'est un petit peu. Mais juste un petit peu. Hein. Allez, hein, je reviens tout à l'heure.
Peut-être que pendant
oui,
ce temps.
Je sais, Joël, tu vas te lasser, mais je reviens.
On va écouter peut-être un premier morceau de jazz issu de la programmation du festival Bleu Trompette.
Ça, oui, le vendredi 25 juillet, il y aura à Montpezat de Quercy Marc Laferrière qui est déjà venu à Montpezat, mais qui chaque année fait un tabac. C'est un entertainer.
Il ne fume pas, hein.
Pardon ?
Il ne fume pas.
Il ne fume plus.
Non, tu vois.
Humour.
Donc, parce qu'il fait un tabac.
Oui.
Oh là là, la
barrière. Elle vient de l'Ouest, celle-là.
Ouais.
Ça fait pas beaucoup, hein.
Ouais. Il faut dire que Marc est un personnage, il est très, très haut en couleur, il est très gentil, et quand il fait de la musique, il se donne. Bon, il faut dire qu'il y a déjà un petit moment maintenant qu'il fait de la musique. Il avait commencé par faire des études de droit, parce que dans sa famille, on est plutôt de ce côté-là. Son papa était notaire, son frère est notaire. Il a commencé à faire le droit, mais le soir, quand même, il préférait faire du jazz. Donc, dans les années 50, il a commencé à jouer au Soho Club en compagnie de Claude Luther. Et il jouait du saxo-soprano comme son maître Ciné Bécher. Là d'ailleurs, bon, le jazz c'est bien d'en parler, mais c'est mieux de l'écouter. Nous allons écouter Marc Laferrière dans un morceau Ciné Bécher qui s'appelle « Dans les rues d'Antibes ».
Je dirais quand même qu'il est peut-être pas notaire, mais il a une belle cravate.
C'est sûr. Et alors ensuite, on va déguster un petit rosé, non ? Ça va pas être ça,
on boit un petit rosé.
Ah oui, un petit rosé bien frais, là. Ce serait pas mal, non ?
Ouais. Il y a pas un petit rosé bien frais ? Il est là-bas, le rosé bien frais ?
Thank you.
Si vous aimez l'ambiance jazz Nouvelle-Orléans et jazz traditionnel, venez à Montpezat de Quercy pour ce festival Bleu Trompette où vous serez agréablement surpris par Marc Laferrière.
Et les dates?
Les dates, ça sera le 20 Marc Laferrière, ça sera le 25 juillet. Le vendredi 25 vendredi, juillet, ouais. À 21h, ce sont des concerts gratuits. Mais nous avons le président de l'association Bleu Trompette, Joël Mouriot, et nous allons le cuisiner sur ce festival.
Alors, sur la plaquette que j'ai dans les mains, le festival Bleu Trompette se déroule à Montpezat de Quercy du 7 juillet au 25 août. Alors, on s'attend à une programmation énorme tous les jours, mais il y a une astuce, Joël Mouriot.
Ah oui, c'est pire que Marcillac ici, on dure 2 mois. Non, l'idée c'est que le festival Bleu Trompette se divise en 2 parties. Il y a une partie expo de rue qui démarre le 7 juillet jusqu'au 24 août. Cette expo de rue, c'est sur plusieurs thèmes, donc c'est le thème des gens d'ici. Les gens d'ici, c'est des photos géantes, 1m60 par 1m80, et le travail par Bernard Perron sur le bleu trompette et le bleu, l'histoire de Bleu Cochette. Mais nous avons dans la salle Bernard Perron qui expliquera un peu mieux le travail. Et ensuite, il y a 2 dates de concert, le 25 et le 26, qui se trouvent sur la place du Réduche, où c'est gratuit pour tout le monde en jazz Nouvelle-Orléans.
D'accord. Voilà. Et c'est là où il y a Alain Boucher.
Alain Boucher quintet et ouais. Marc Laferrière quintet. Je précise aussi que c'est gratuit pour le public.
Donc les dates à retenir, c'est le 25 et 26 juillet pour les concerts. D'ici là, exposition dans tout Montpezat de Quercy.
Surtout, venez découvrir l'expo, ça se balade dans les rues, vous découvrez la belle cité médiévale que est Montpezat de Quercy, et vous aurez les thèmes, prenez des photos et dites-le, c'est important pour nous de parler de ça. Oui, je pense que Bernard Perron en parlera un peu mieux que moi.
Vous pouvez faire un tour à la collégiale pour voir les fameuses tentures de Saint-Martin. Ouais. Et ensuite visiter la collégiale qui est magnifique. Après se promener dans les rues ombragées de Montpezat.
Et la tour de Bernard Perron.
Et celle de Bernard Perron. Et ensuite assister à ce merveilleux concert.
Bonjour Bernard Perron.
Bonjour.
Merci d'être là. Il vous faut rapprocher bien le micro de votre voix.
Bonjour.
Comment allez-vous?
Ben écoutez, je vais pas trop mal pour l'instant. Il y a bonne chair et bonne bouteille, donc tout va bien.
Voilà, Bernard Perron, je le dis pour nos auditeurs, est assis à une table dans le restaurant un petit peu plus loin avec ses amis. Bernard Perron, il y a une photo sur le programme où vous êtes en train d'afficher un grand format. Oui, alors, c'est une sorte de fusain bleu. Les cochons aiment aussi la musique.
Oui, absolument. On est parti sur un thème, les cochons, parce que ça s'est passé un petit peu comme une salle ici, dans un lieu de convivial comme ça. Et on a décidé de parler un peu du cochon, cet animal qui nous nourrit depuis des générations et des générations. Et qui est, quand on parle de lui, un animal sympathique. Et quand ça devient un adjectif pour nous, devient tout à fait autre chose. Donc on a un peu dérivé sur un côté humoristique. J'ai fait des dessins à propos des cochons en ajoutant à cet adjectif une illustration. Voilà.
Ça s'appelle Bleu Clochette, votre exposition?
Ça s'appelle Bleu
non,
Cochette.
Cochette. Bleu, ah pardon, ouais. Cochette. Excusez-moi.
Cochette, parce que la cochette, c'est la jeune cochonne, si je puis m'exprimer ainsi. Et on a pensé que cochonne, c'était un peu trop connoté. Vous voyez, comme ouais. Quoi... La langue française est compliquée, on dit cochonne, tout de suite ça évoque autre chose.
Mais voilà. Bleu cochette, c'est un très joli. Pascal,
mais non.
Pour nous, pas du tout.
Pascal, est-ce que tu peux un petit peu nous présenter Bernard Perron, s'il te plaît?
Alors, Bernard Perron, un décorateur de théâtre pendant des années. Une grande main, une grande plume, une belle tête. Et il est à Montpezat depuis... Combien?
17 ans,
il a été un des premiers à se mettre au vert à la campagne avec Micheline. Et ils ont monté une chambre d'hôte magnifique qui est à 4 km d'ici, à peu près, le domaine de Lafond. Et que moi, je les connais depuis une bonne dizaine d'années, depuis très longtemps. Voilà. On vieillit ensemble et ils vieillissent bien.
Bleu Cochette pas par Bernard Perron pendant le festival Bleu Trompette. C'est à Montpezat de Quercy que ça se passe. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on est ici, à la table du cardinal, qu'on est agréablement accompagné par tous ceux qui vont déguster avec nous ce très chouette repas que nous a concocté Vito. Ouais, Joël.
Excuse-moi Rémi, mais je voudrais préciser, parce qu'on a parlé de cochette du festival, mais pourquoi bleu? bleu, c'est très important, c'est le bleu, c'est le bleu du ciel du Quercy, c'est le bleu charrette, toute l'expo, le thème est sur le bleu.
Mais le bleu charrette, c'est quoi?
Et le c'est bleu charrette, le bleu du blues.
C'est le bleu du blues, c'est la, la note bleue que recherchent tous les musiciens, c'est le bleu des yeux de ma mère, c'est le bleu du Quercy, c'est le bleu pastel.
Le bleu pastel.
Le bleu pastel.
Georges,
j'ai fait. Et les yeux de Jean. Georges, je vais pas parler de tes
qu'est-ce
yeux quand même, non?
Qu'est-ce qu'il dit, Jean?
Georges.
Bleu comme les yeux de Jean.
Ah, mais mon vieux Georges, écoute-moi.
Voilà, c'était
important de préciser que le bleu, toute la, la, les soirées et toutes les expos, c'est, le thème, c'est bleu au départ. C'est important, c'est un thème.
Alors, au festival Rose, Bleu Trompette, on trinque, hop, à la vôtre.
On va Gina. Trinquer avec on... un sublime rosé de, du domaine de la Fage, un très beau rosé,
qui a une délice.
Couleur magnifique. Alors, c'est dit pressé, c'est dit saigné?
Ah ah, un petit peu pressé et beaucoup saigné.
Alors, un mélange des genres, mais pour avoir une belle, pour avoir une couleur comme ça. Alors tu sais que la mode est au rosé très pâle et oui. Toi tu fais quelque chose qui est très carmin mais qui est d'une sensualité
couleur framboise folle.
Couleur framboise mais qui est magnifiquement beau.
Bernard Buisson.
Oui oui. Alors au niveau de la couleur justement quand on fait un rosé en grande partie de saignée, on réussit pas tout le temps du premier coup une couleur comme ça. Moi habituellement je l'avais légèrement plus clair aussi comme mes petits camarades.
Voilà, et c'était bon. L'année, c'était
c'était l'année, ça prenait de la couleur assez vite et voilà, donc ça donne cette belle couleur.
Donc ça, c'est un... C'est quelle année, ça? C'est...
2013. Hein.
2013, un rosé
c'est
de l'année dernière?
C'est la dernière récolte.
Donc un rosé, toujours pareil, un rosé, ça se garde pas, ça se boit. Celui-là peut se garder 2-3 ans ou pas?
Alors, ça peut se garder 2-3 ans, mais ce sera jamais meilleur que maintenant, quoi. Il faut
c'est
le
un rosé,
dans
c'est
l'année.
Bon frais de l'année d'avant, en fait.
De l'année d'avant.
Hein, 2013, donc là, il est sorti, il y a... Tu l'as mis en bouteille quand?
Bouteille au mois de début mars, et voilà, quoi, il est en vente.
Et là, il a, on le boit. Donc bien entendu, c'est bio, totalement bio.
Oui, c'est même en biodynamie.
Oui.
Biodynamie même.
Oui, oui, oui. Donc, oui.
Si donc là, ni filtré, ni collé, pas de levure indigène, c'est... rien du tout, et pas de saloperie dans les vignes.
Voilà, alors...
Donc c'est vrai, il n'y a pas de saloperie
dans les
vignes.
On ne peut pas faire un paquet de tout ce que tu viens de dire, mais en gros, il est filtré, et il doit être même légèrement collé.
Collé.
Mais,
ça, ça a pour
dit,
but d'enlever les impuretés du vin.
Voilà, parce que dans un vin rouge, on peut se permettre de ne pas coller, voilà, ouais, c'est pas aussi transparent. Là, un rosé, quand même, on le déguste le aussi. Vrai.
C'est la couleur qui fait, voilà.
Avec les yeux, d'abord. Et donc, voilà, c'est important qu'il soit vraiment brillant. Enfin,
et tout bio. Et,
alors, tout bio, oui, bien sûr.
Ça, tu, de bio de, chez, au domaine de la Fage, c'est depuis combien d'années?
Depuis 1990.
Donc ça c'est un pionnier.
Un Philippe, pionnier montalbanais, un pionnier tarn-et-garonnais.
Alors, je revendique pas ce nom de pionnier, parce que les pionniers, c'est ceux qui sont passés avant moi et qui ont débroussaillé le terrain, et déjà dans les années 60, sans doute, que les premiers agriculteurs ont refusé, finalement, ce qui pouvait apparaître pour d'autres le progrès, mais qui ont tenu bon sur, avec des vraies valeurs. Et ceux-là, c'était vraiment des pionniers dans le sens où ils n'étaient pas compris, ils étaient
c'était
dénigrés. Et voilà. Moi, à mon époque, c'était pas si facile qu'aujourd'hui. Mais quand même, bon, voilà, j'étais pas un pionnier. Mais j'étais un des premiers vignerons, quand même, en Tarn-et-Garonne, c'est vrai.
Et tu aurais pu choisir le bio, mais ça va plus loin que ça. Tu es parti sur la biodynamie, quand même. C'est pas choisir la facilité, quand même.
Alors, oui et non. Disons que quand j'ai commencé, je me suis dit, bon, la biodynamie, c'est trop compliqué. Je vais commencer à faire du bio et après, on verra si on peut aller plus loin. Et puis, j'étais un peu déçu, quoi. J'avais l'impression de m'être arrêté en cours de route. Et j'ai voulu, 2 ans après, 3 ans après, passer en biodynamie. Et depuis, voilà, je fais cette méthode qui est une des cultures, une des méthodes de culture biologique. Voilà,
d'autres vignerons sur le terrain, au niveau du Tarn-et-Garonne, d'autres vignerons, le bio se développe bien. En tant que, je te pose ça, en tant qu'ancien président de Bio 82.
Oui, alors oui, quand même, on peut dire. Je ne sais pas exactement, mais je crois qu'on est une dizaine de vignerons bio en Tarn-et-Garonne maintenant. Donc ça a mis du temps à démarrer.
À prendre,
mais maintenant que la graine a germé, voilà, c'est bien. Je suis très, très content qu'on soit...
D'avoir fait école.
Enfin, très content d'avoir été suivi, surtout.
Bernard Bouissou, du domaine de la Fage, si vous voulez en savoir plus, quand même, on va revenir hein, vers toi, Bernard, mais je tiens à le dire, comme on t'a reçu à de nombreuses reprises dans l'émission, je pense que si vous tapez dans Google « Qu'est-ce qu'on déguste, Bernard Bouissou ?», vous l'entendrez à de maintes reprises raconter son histoire dans
l'émission. Et des photos du domaine de la Fage, en bouteille, il y en a beaucoup. Parce qu'on en a bu beaucoup. Parce que Bernard est très généreux en plus.
Mais parce qu'on l'aime beaucoup aussi.
On aime son vin aussi.
Qu'est-ce qu'on déguste ? Fin de la première demi-heure. A tout de suite.
Qu'est-ce qu'on déguste?
C'est parti. Merci. Merci beaucoup. C'est quand tu veux, Aurélien, on y va. On est pas mal, là. Qu'est-ce qu'on déguste ? La suite. Ah, voilà. Bernard Bouissou à la manœuvre pour déboucher un domaine de la Fage tradition, Coteau du Quercy. 2011, il nous dira dans quelques instants si c'est une, si c'était une bonne année. J'ai l'impression que les vins du Tarn-et-Garonne et des environs sont passés jusqu'à maintenant au travers de la grêle. Je me trompe.
Oula, on croise les doigts. Non, pas de ça.
Ah, il y en a eu ou quoi ?
Il y en a eu un peu.
Ah ouais.
Bon, c'est pas catastrophique hein, pour ceux que je connais, mais bon, il y en a quand même qui ont morflé jusqu'à 40%.
Ah oui, quand même. Ouais, donc c'est vrai qu'il y a eu des orages très très violents et très localisés. Bon, on pense beaucoup à eux parce que
notamment Bourgogne, Volnay, Pommard.
Oui,
mais ils sont ravagés. C'est un peu l'OM.
Ça fait la troisième année quand même. Qu'ils sont ravagés complets. Mais alors même si les bouteilles valent cher, tenir trois ans sans vendre une seule quille, ça commence à faire beaucoup.
C'est sûr. Vous écoutez, qu'est-ce qu'on déguste ? On est à la table du Cardinal, chez Vito Alessi.
Et on est bien.
Et on est plutôt pas mal. On parle du festival Bleu Trompette. On déguste un accord mai et vin avec Bernard Bouissou, domaine de la Fage. Et puis quoi d'autre, mon cher Pascal ?
Et puis ce qui est sur les, sur les ardoises.
Ça a l'air appétissant.
Vito, alors, c'est quoi là ?
Il nous l'a dit tout à l'heure.
Bah, le fameux saumon Gravelax dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc on a fait un accord terre et mer. C'est une assiette terre et mer. Et le foie gras plus que mi-cuit. Alors le foie gras plus que mi-cuit, il est servi sur un toast de pain avec un confit d'oignon rouge à l'AOC du Quercy de chez Bernard, bien sûr. Voilà, donc on va pouvoir déguster son vin également. Merci. Également dans l'assiette. Et vous avez une petite sauce pour accompagner le saumon, alors qui est à base de moutarde à l'ancienne, huile d'olive, vinaigre balsamique, basilic et du miel.
Tu conseilles quoi ? D'attaquer plutôt par le saumon ou d'attaquer par le foie gras ?
Oh, comme vous le sentez, j'attaquerai plus par le foie gras parce que j'ai peur que le saumon casse le goût du foie gras après.
Oui. Donc on mange d'abord, par exemple, tout le foie gras et après le saumon, ou on peut faire un ping-pong ?
On peut faire un petit micmac, hein, y a pas de souci.
Voilà, c'est ça. Hein.
Ouais. Faites-vous plaisir.
Et donc tout ça accompagné effectivement de avec quoi on le fait là ? Avec le rosé ou avec le rouge ?
Ah ben moi je suis encore au rosé.
Bernard, mais... à ton avis, qu'est-ce qu'on fait ?
Mais le rosé va très bien pour le saumon. Et pour le foie, eh bien, il faut essayer. Sinon, on garde un peu de foie et pour le vin rouge. Mais il y a des bouteilles de vin rouge aussi sur la table, donc on peut comparer.
On peut comparer. Oui, tiens, moi, je vais essayer le vin rouge. Tiens, allez, hop.
Il n'est pas très rosé, pourtant, ce rosé du domaine de la
Fage. Oui, il a vraiment du caractère.
Est-ce que c'est un rosé qui a eu une médaille ?
Eh oui, il a eu une médaille au concours des vins des coteaux du Quercy.
Médaille d'or, j'espère.
Eh oui.
Mais tu n'as pas mis le. Tu as pas encore.
La... Je ne l'ai pas encore reçu, mais.
Médaille d'or au concours des vins du Quercy. Alors, concours des vins du Quercy, c'est début juin, un lundi matin. Et là, il n'y a que des spécialistes des coteaux du Quercy. Donc, il y a des vignerons et il y a des restaurateurs, il y a des amoureux des vins des coteaux du Quercy. Et quand on a une médaille d'or là-bas, ça veut dire que quand même, on a un produit qui est quand même. Qui fait la maille, quoi, pour les coteaux du Quercy. Que ce soit en rouge, rouge fût. D'habitude, Bernard, il truste les médailles sur les rouges. Rouge fût, rouge non fût, rouge tradition. Et là, une médaille pour le rosé, c'est pas courant.
C'est pas courant, non, mais ça fait bien plaisir quand même.
Oui, parce que on a quand même un produit qui est vraiment un très,
c'est
très
mérité,
bon produit.
Oui, quand tu bois des rosés.
C'est une grosse production, le rosé, pour toi ?
Non, non, non. On fait, comment dire, 20% des bouteilles en rosé et puis 80% en rouge.
Ouais. Et en col, c'est combien ?
En col, ça fait, cette production-là, ça fait 4000 cols.
D'accord. Et pour les cépages, ce sont les mêmes cépages que le rouge ?
Alors, il y a une petite différence. C'est effectivement les trois cépages Cabernet Franc, Merlot, Malbec. Mais pour le rosé, je rajoute du Gamay.
D'accord.
Parce que le Gamay apporte de la fraîcheur, de l'acidité, c'est sympa. Quoi.
Quand tu dis « je rajoute », tu as un œnologue qui travaille avec toi ou c'est vraiment Bernard Buisseau qui est à l'élaboration ?
Alors, comme tous les vignerons, effectivement, on a comment dire, on travaille avec un labo où il y a des œnologues. Et pendant les fermentations, enfin pendant les vinifications, effectivement, cet œnologue passe deux fois par semaine.
C'est l'œnologue de la Chambre d'agriculture ? Ou pas.
Non, moi j'ai pas choisi celui-là, mais bon, voilà, effectivement, il y a des laboratoires privés, il y a des laboratoires à la Chambre d'agriculture, et comme notre coteau du Quercy, comme vous le savez, est à cheval sur le Lot et le Tarn-et-Garonne, moi il se trouve que mon œnologue, moi il est dans le Lot.
C'est celui du Lot.
Voilà.
Et donc il vient pour les fermentations, il vient pour rassurer le vigneron.
Et pas que ça, il fait un peu l'abeille, comme tous les techniciens, enfin tous les conseillers, c'est-à-dire que très vite, lui, il voit dans l'année quelle va être la difficulté, est-ce qu'il va falloir refroidir beaucoup, est-ce qu'il va falloir fermenter rapidement, est-ce qu'au contraire, il faut laisser macérer, parce que ben, dans sa journée, il voit 50 vignerons, et il a très vite compris la difficulté de l'année en cours.
Toi, tu sais ce que tu veux faire, ou tu vois
voilà.
Ses directions.
Et puis lui, il m'aide effectivement d'une façon très importante à faire les bons choix, quoi.
Et là, le bon j'ai choix, vu en revenant de Cahors un autre domaine de Lafage quelque part. Il y a plusieurs domaines de Lafage. Qu'est-ce que c'est
Alors, il semble effectivement, on nous a dit ça. Je les connais pas, mais il semblerait qu'il y ait un autre domaine de Lafage dans le Cahors.
Ah, d'accord. C'est pas le tien.
Non.
Si je me suis dit, tiens, Bernard Buisseau. A ouvert un autre.
Il a essaimé,
oui.
Alors, de la même façon qu'il y a un autre Bernard Buisseau qui est vigneron aussi dans la vallée du Lot.
Oui.
Ah, d'accord. Et qui a le domaine de Lafage aussi
non, non, non,
non,
c'est
non, parce que après, c'est pour le fisc, ça peut être utile, on ne sait jamais. Tu sais.
On l'enverra chez l'autre.
On l'enverra chez l'autre.
On l'enverra chez l'autre. C'est pas moi, c'est lui.
Ben le ping-pong fonctionne bien. Hein.
Ouais.
Le ping-pong fonctionne bien entre le foie gras et le saumon gravlax.
Et vient d'où ton foie gras ? Tu nous l'as dit peut-être, Rito ?
Le foie gras, je travaille avec des producteurs. Je change souvent, mais je prends toujours de l'IGP. Voilà. IGP Sud-Ouest.
Tu changes souvent, pourquoi ?
Question de prix.
Ouais.
Voilà, question de prix, parce que c'est vrai qu'on.
Tu fais jouer la concurrence.
Voilà, il y en a qui se font vraiment plaisir.
Ouais.
Ouais, au niveau du prix, il y en a qui se font vraiment plaisir. Sous prétexte que, soi-disant, c'est un foie gras spécial restauration, donc badaboum.
Ouais.
Alors, voilà, j'en ai 3-4 avec qui je travaille et que je mets en concurrence.
Le foie gras, quand on a un restaurant à Montpezat-Quercy, ici dans le Tarn-et-Garonne et dans le Quercy, c'est l'incontournable, on est obligé. D'avoir du foie gras à la carte.
C'est une de mes plus grosses ventes.
Ouais.
Et ouais, en entrée, c'est ce qui sort pratiquement le plus. Non, c'est impressionnant. Ouais.
Même, c'est quoi la clientèle de
Des mamies qui font eux-mêmes leur foie gras. Bon, c'est vrai qu'au départ, elles étaient un peu réticentes. C'est quoi ce Parisien d'origine sicilienne qui a vagabondé un petit peu sur toute la France, qui commence à nous faire du foie gras? Mais bon, bah, une fois qu'elles l'ont goûté, elles le trouvent bien, quoi. Voilà, j'ai une autre approche au niveau de la cuisson. J'ai travaillé pendant pas mal de temps ce type de cuisson, parce que c'est vrai que moi personnellement j'aime pas le foie gras quand il est trop cuit, et je l'aime pas forcément quand il est vraiment mi-cuit, presque cru. Donc ça a été plusieurs tests, pour trouver cet équilibre et justement l'alchimie au niveau de la cuisson.
C'est pour ça qu'il s'appelle plus que mi-cuit.
Plus que mi-cuit, voilà, tout à fait.
On s'écoute un petit morceau de pop, encore une nouveauté, Isaac Delusions, le morceau She Puttens, pendant qu'on déguste cette belle assiette.
Ah oui, ça le fait bien. Hein.
Voilà.
Oui, c'est plus que mi-réussi.
Il est très 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 goûteux ton saumon, ton foie gras aussi, je peux te dire. Non, mais le saumon particulièrement quand même. Hein.
C'est le fait de le faire mariner justement dans ce que je te disais, la base de la marinade Gravlax, c'est un mélange de sucre et de sel. Voilà. Donc après c'est vrai qu'on peut on peut l'agrémenter avec plein de choses.
C'est long en bouche, c'est super long en bouche.
Ouais. Ouais. On peut l'agrémenter avec plein de choses. Bon, moi là j'ai fait un saumon Gravlax avec de la betterave. À la betterave, c'est pour ça qu'il a cette couleur légèrement rougeâtre en surface. Mais après on peut. J'ai déjà essayé de le faire aussi avec de la mangue, le draper de la betterave. J'ai râpé de la mangue et c'est vrai que ça apporte d'autres saveurs assez sympas.
De la pop assez traditionnelle, Isaac Delusions, peut-être bientôt dans la playlist de CFM, je pense, ce morceau. Je le sens.
Chin, Pascal, alors.
Ça fait longtemps qu'on n'a pas trinqué dans cette émission.
Santé, Bernard.
Il n'y a plus de vin, comment ça, il n'y a plus de vin.
J'ai une bouteille de vin.
Ils sont là.
Alors, faut l'ouvrir. Tiens, tiens.
C'est qu'est-ce qu'on déguste. On est avec Bernard Buissou
Domaine de la Fage.
Domaine de la Fage.
Oui, non, mais lui,
et
d'accord.
Vito Alessi.
Vito est parti en cuisine pour nous.
Il travaille.
Pour travailler la suite.
Là, c'est l'agneau du Quercy.
Attends, je repose le truc pour les auditeurs qui prendraient le train en marche.
On est où ?
On est à la table du Cardinal.
Où ça ?
C'est à Montpezat de Quercy. Et Vito Alessi a proposé un truc un peu particulier. C'est la première fois qu'on fait ça. Pendant toute la durée de l'enregistrement de l'émission Qu'est-ce qu'on déguste ? Il y a sa salle de restaurant qui est pleine. Il y a des clients. Ils ont payé 35 euros pour déguster la même chose que nous. Donc il y a un repas, dégustation, accord mets et vin. Alors ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'avec chaque plat, il y a un verre de vin qui est accordé
avec le mets qui va.
Voilà.
Et le vin, c'est Bernard Buissou, Domaine de la Fage, Coteau du Quercy, bio ici. À notre table, avec madame.
Madame Buissou qui est à côté de moi. Vous allez bien ? Vous voulez pas de micro, je sais.
Elle est allergique au micro.
Femme de vigneron ou vigneronne ?
Médecin.
Femme de vigneron.
Voilà. Femme de vigneron.
Et elle est médecin, donc elle n'a rien à voir avec la... Voilà. Donc, vous prescrivez le vin, oui, quand même. Voilà.
Donc, s'il y a un malaise ce soir, on est à l'abri en même temps.
Madame nous dit qu'elle prescrit le vin.
Alors, allopathie ou
homéopathie ? Oui, mais si vous parlez hors micro, ça ne fait pas.
Ça va, on est sauvés.
Les tanins sont très bons pour la santé.
Oui.
Ah, voilà.
Vous me donnerez l'adresse de votre cabinet parce que moi, je veux bien que vous soyez mon toubib, du coup. Non, c'est vrai, les tanins sont très bons pour la santé.
À consommer avec modération, mais oui. Oui, bien sûr, c'est une protection vasculaire, donc c'est reconnu. Et donc les vins tanniques du Sud-Ouest sont très bons pour ça, parce qu'ils sont effectivement riches en tanins, mais bien entendu à consommer avec modération.
Il y avait eu le Madiran qui avait été, il y a quelques années, il y avait une étude sur le Madiran qui avait montré qu'effectivement, pour les maladies cardiovasculaires, le Madiran était très tannique et donc plus haut point. Et c'était des Anglais qui avaient
sorti ça. Plus proche de nous, en Tarn-et-Garonne, pardon, c'est pas dans les coteaux du Quercy, mais c'est notre ami des vins du Brulois qui avait fait toute une promo là-dessus. Autour.
Oui, non, mais eux ils le vendent parce qu'ils le vendent au Québec pour comme antigel. Ça, tu sais que ça, chaque fois, on en parle. Alors que, bon, le Madiran est quand même plus gustatif.
C'est un moyen Christian, toi, tu vas voir.
Christian, on t'aime beaucoup au vin du Brulois.
Pour le deuxième jour du festival Bleu Trompette, l'association du festival invite Alain Boucher. Alain Boucher est connu quand même des Tarn-et-Garonnais parce qu'il a joué pas mal de fois au festival de jazz de Montauban. Il a fait des premières parties où chaque fois il avait une carte blanche pour avoir un invité. Il a eu d'ailleurs Scott Hamilton, Warren Maché et de Jim Galloway, beaucoup de musiciens. Il venait avec des musiciens de préférence américains qu'il connaissait, avec lequel il avait joué. Bon, Alain Boucher a fait le tour un peu de tous les festivals, Montauban, Marciac, Nice, il a joué à Santa Fe, il a joué aussi au Festival de la Nouvelle-Orléans. Il a même enregistré un disque aux États-Unis, il a enregistré de nombreux disques en France. Il a joué aussi dans l'orchestre de Marc Laferrière, que nous écouterons le 25 juillet. Comme Alain Boucher sera là, ça sera les retrouvailles entre ces deux musiciens, qui à nouveau feront quelques morceaux ensemble. Et Alain Boucher, là, nous l'écoutons dans un titre. Il n'y a que trois musiciens. Il y a une contrebasse, un piano et la trompette. Et ce sont les trois musiciens qui joueront ce soir-là à Montpezat le samedi 26 juillet. Thank you.
aussi des morceaux un peu plus sévères, ils sont bien parce qu'ils permettent, ils sont larges comme ça, ils permettent au vin de respirer et de s'oxygéner. Pas trop longtemps le jazz, oui, c'est vrai. Pas trop longtemps le jazz.
Just You, Just Me, Alain Boucher, en compagnie de Thierry Olé au piano et d'un contrebassiste local.
C'est toi le contrebassiste. Et Georges Bonfils à la contrebasse.
Bravo, voilà. Bravo, Georges.
Et nous serons présents à Montpezat le 26 juillet. Ne ratez pas ce concert.
Ah non, mais il n'y a pas conflit d'intérêt là quand le directeur artistique du festival s'invite en tant que contrebassiste?
Ben non, au contraire, moi je trouve que c'est un apport supplémentaire. C'est beaucoup plus convivial, comme la table à côté, d'ailleurs, qui font partie de l'assaut. Je ne savais pas qu'ils étaient là ce soir. Toute la table font partie de l'association.
Ah, la table d'à côté, oui, là, ben, derrière, c'est Bleu Trompette.
Ben ouais, mais je ne savais pas. Donc,
messieurs, dames, merci d'être là.
Ben oui, merci.
Alors, en même temps, vous avez une belle table ici, à Montpezat-Quercy. Parle-moi un peu de Montpezat-Quercy. Parce que je sais qu'il y a une élue de Montpezat-Quercy, peut-être Madame l'élue à la culture qui est assise derrière.
Là
non, non, c'est pas ça.
Ben elle est là, c'est la dame, c'est Madame Perronne.
C'est vous, Madame? Ah, Madame Perronne.
Perronne est élue à la culture.
D'accord. Ouais. Nous avons discuté avec votre mari tout à l'heure. On va vous donner un petit micro. Regardez, hop, tiens, fais passer un micro à Madame Perronne, s'il te plaît. Qu'est-ce que ça signifie, Madame Perronne, être élue à la culture d'un village comme Montpezat-Quercy?
Oui.
Qu'est-ce que ça signifie? C'est quoi le rôle? C'est un rôle important?
Pour moi, c'est un rôle important parce que je vis depuis 46 ans avec un monsieur qui a travaillé dans le décor de théâtre depuis l'âge de 14 ans. Donc j'ai été un peu bercée et éduquée par ça. Il est en plus artiste peintre. Et quand il trouve des copains de la trempe de Joël Mouriot, ça se déchaîne, ouais. Ça se déchaîne. Donc c'est bien aussi de leur permettre de s'exprimer. Ça permet de faire vivre notre beau village et on a quand même pas mal de projets en ce sens.
Par exemple
on va refaire avec Joël des concerts assez régulièrement. On en a un prévu au mois de novembre, toujours de jazz. Et on fera aussi peut-être des repas gourmands un peu plus élaborés. On avait fait... Non, faut pas le dire.
Oui,
non,
pourquoi vous aviez...
On peut le dire, on peut le dire.
Pourquoi avant
en fait,
c'était
on va faire des soirées soupe.
C'était sandwich.
Avant c'était des repas gourmands, c'était fish and chips.
Bon, vous allez nous inviter quand même si c'est des soirées soupe.
Oui, sur les soirées soupe.
Évidemment qu'on va vous inviter.
Est-ce qu'on pourra faire Chabrot?
Vous pourrez faire Chabrot, oui, même avec le vin de Bernard, sans problème. Et on avait fait il y a quelques années, en 2008, un gros festival médiéval qui s'appelait Festa Montpezat où on avait réussi à trouver 400 personnes costumées et 3000 personnes sont venues nous voir. C'est mon mari aussi, on avait monté ça parce que on connaît un peu.
Une sorte de son et lumière, vous aviez
fait? Non, il n'y avait pas de son et lumière, c'était une journée complète avec des cavaliers, des jongleurs, des cracheurs de feu, avec une trame concernant la création le bicentenaire de la création du département, donc
D'accord.
En 2008, et on avait brodé là-dessus, on avait fait un très très beau festival, donc
2008,
on va continuer, mais en étant un peu plus modeste, peut-être.
J'étais pas né, moi.
On a plein de projets.
C'est quoi l'atout culturel indéniable de Montpezat-Quercy?
Alors, c'est le patrimoine, mais il faut surtout y associer beaucoup de choses, il faut y associer la musique. On a aussi une chorale très sympathique qui nous fait... Pardon? Oui, et surtout, on a la chance, c'est vrai, d'avoir 30 associations extrêmement efficaces qui font aussi un très beau spectacle qui s'appelle Marie des brebis sur une idée de Signol qui doit maintenant, je sais pas on en est à combien d'années de représentation? Plus de 10?
10 ans, ouais. Et c'est complet, c'est pratiquement déjà complet pour le mois d'août. C'est un petit village où il y a 6 habitants, enfin c'est un petit hameau de la ville de Montpezat, il y a 6 habitants et chaque année c'est complet. Ils ont une extra, enfin c'est vraiment les gens qui participent. Il y a 150 bénévoles et ça raconte la vie d'un village autrefois.
Ça te fait rêver pour Bleu Trompette, ça.
Ah oui, ça me fait rêver. Ouais, ouais. Non, ouais. Mais c'est le début. Hein.
Merci, Madame Perronne, pour
je
votre travail.
Je vous en prie. Bon appétit.
Et bon appétit à vous.
Merci.
Oui, c'est qu'est-ce qu'on déguste, on est à la table du cardinal, alors évidemment il y a du brouhaha.
Avale, parce qu'on a ta bouche pleine.
Il y a du brouhaha.
T'as vu comme le niveau sonore s'élève au fur et à mesure du repas quand même. C'est...
Ça, c'est l'effet.
À mon avis, c'est l'effet
du domaine de la phage.
L'effet de la phage.
Qu'est-ce que ça va être la dernière demi-heure?
Alors, il y a des gens qui sont très discrets, c'est les tables d'anglais qui ne parlent pas fort.
Eux.
Nous irons les interroger.
Sauf que le français parle fort. Alors,
tu vas aller faire
on
une
va prendre
interview.
Le micro à chef. En anglais, il va faire l'interview.
Non, juste en français, mais avec un accent anglais.
French.
Vous êtes bien sur CFM Radio, c'est Qu'est-ce qu'on déguste? On est à la table du Cardinal. Et je dois dire qu'on est plutôt pas mal reçu par Vito et Catherine Alessi. La suite, c'est Adieu du Quercy, couronne d'ail frais violet. C'est ça que tu voulais me faire dire, Aurélien? Tu veux savoir ce qu'il y a après, quoi? Voilà. L'Omagne, rôti, mille. J'arrive pas à lire, j'ai pas mes lunettes.
Non, il y a l'agneau, il y a de l'agneau du Quercy. L'agneau du Quercy, avec une couronne d'ail de l'Omagne qui est rôti. C'est magnifique, cette taille coupée en deux, tu vas voir comme c'est beau. Un millefeuille d'agata, c'est des pommes de terre. Et quelques légumes de saison, carottes, choses comme ça.
C'est la tête d'ail qui est coupée en deux, c'est pas l'ail tout seul.
C'est une tête d'ail qui est coupée en deux. Une tête d'ail, c'est magnifique en photo, on dirait presque une grenade, sauf que c'est blanc au lieu d'être rouge, mais c'est somptueux.
La suite de Qu'est-ce qu'on déguste dans quelques instants. Qu'est-ce qu'on déguste ? La suite. Qu'est-ce qu'on déguste à la table du Cardinal à Montpezat Quercy? On est chez Vito Alessi et Catherine et on est plutôt pas mal reçus. Il y a ce soir dans la salle une trentaine de clients qui dégustent la même chose que nous, monsieur dame. C'est la première fois qu'on fait ça à Qu'est-ce qu'on déguste et on peut saluer finalement la virtuosité de Vito sur ce coup-là, de Catherine également, mais aussi de Fabien, de Richard et de Cassandra parce qu'ils arrivent à servir tout le monde à peu près en même temps. Et sur la durée de cette émission,
ouais, c'est pas facile, on peut les applaudir.
Ce qui est un challenge, bravo.
Plutôt mieux.
Merci.
Hein. On fera un petit micro trottoir tout à l'heure, un petit micro table pour savoir un peu les réactions.
Ce qu'on a dans l'assiette, Vito, s'il te plaît.
Alors, c'est super bon en tout cas.
Agneau du Quercy avec un. Alors moi, l'agneau, je le commande entier, donc toutes les parures, je fais toujours un fond. Là, j'ai utilisé le vin de Bernard pour faire mon fond. Et donc la sauce est à base du vin de Bernard.
Donc le vin de Bernard, pour les auditeurs, je dis ça, c'est Bernard Bouissou, c'est Domaine de la Fage.
Voilà, Domaine de la Fage, tout à fait, à Montpezat Quercy, sur la National 20. Et donc ensuite, on a une demi-tête d'ail de l'Omagne, fraîche, comme je l'expliquais tout à l'heure, qui est préparée très simplement, coupée en deux, un filet d'huile d'olive, herbe de Provence, fleur de sel et... 5-6 minutes au four, à 180 degrés. Voilà.
Rôti,
voilà. Rôti, bien moelleuse. Ensuite, vous avez un petit flan avec un duo de courgettes. Donc, c'est un flan avec de la courgette que j'ai acheté à Montalza. Donc, c'est de la courgette de Montalza. Courgette jaune et courgette verte que j'ai fait griller avec des champignons.
Quand tu dis que j'ai acheté à Montalza, c'est quoi? Tu vas sur le marché, comment ça se passe?
Non, il y a un producteur sur Montalza qui vient me voir régulièrement quand il y a de la courgette et puis bah il fait de la courgette ronde, jaune, verte, de la longue aussi. Et il a des produits vraiment super sympas.
Comment tu fais pour trouver les bons produits? T'es à l'affût?
Je suis à l'affût. J'en ai qui viennent me démarcher aussi. D'accord. Ça existe encore. Bon, le gros souci, on en avait déjà parlé quand on avait fait l'émission, monsieur justement, chez Xavier au 500 Salatoc, au mois de novembre dernier. Et le gros souci de pas mal de producteurs, c'est qu'ils ont un petit peu tendance à nous prendre pour des vaches à lait, alors qu'on peut quand même être une vitrine supplémentaire pour eux. Voilà, j'ai des producteurs qui ont carrément refusé de travailler avec moi parce que pour eux, il fallait qu'ils me fassent un prix, donc c'était pas intéressant pour eux. Voilà. Donc c'est vrai que c'est assez compliqué, mais il y en a quand même qui jouent le jeu. Hein, on va pas cracher sur tout le monde. Il y en a quand même qui jouent le jeu.
Oui.
En plus, depuis le début, pour ce choisi, en tout cas, ça fonctionne. C'est très bon. Les produits sont bons, c'est bien cuisiné. Il n'y a rien à dire.
Bah si, il y a plein de choses à dire, sinon on serait
encore
pas là.
À part encore.
Voilà, donc en dessous le flanc de courgettes, vous avez un duo de courgettes grillées. Et un millefeuille de pommes de terre à base d'agata, c'est un gratin dauphinois entre guillemets revisité, parce que bon, dans le gratin dauphinois normalement il y a des œufs, moi j'en mets pas, Moi, je fais juste moitié crème, moitié lait. Et je rince surtout pas les pommes de terre parce que c'est l'amidon justement qui tient le tout. Et bon, c'est juste rehaussé avec une petite pointe de 4 épices et de l'ail de Beaumont-Lomagne dedans. Et vous avez une demi-carotte aussi de pays qui a été ébouillantée à la base.
La pauvre.
On la garde quand même croquante, donc épluchée, ébouillantée, coupée en deux et glacée. Alors glacée, c'est cuite au beurre, revenue au beurre avec un petit peu de sucre. Voilà, tout simplement.
Cassonade ou sucre ?
Cassonade.
C'est quoi la différence, Pascal, avec le sucre, la cassonade ?
Sucre roux. Bah, le sucre, c'est un sucre blanc, bon, qui est ici issu de betterave à sucre. Ouais. La cassonade, c'est l'étape avant, c'est-à-dire c'est avant que ça soit blanc. C'est pas raffiné, donc il y a moins de saloperie dedans. Il y a pour blanchir le sucre,
C'est pas raffiné. Il y a de la paraffine, tu veux dire ?
Non, ouais, c'est pas raffiné, ouais. C'est pas vraiment raffiné, c'est un peu grossier. La cassonade, oui, c'est un sucre de betterave qui est roux, enfin presque roux, oui, comme c'est, le sucre de canne.
Mais
un peu
de betterave, pas de.
Ah non, la cassonade, c'est de la betterave, ça vient du nord. Avant, il y a la vergeoise. Première étape, la vergeoise, après la cassonade et après le sucre blanc. Ça, c'est les étapes de transformation, de purification du sucre. Au milieu, il y a des drèches, des mélasses, des choses comme ça, qui sont des sous-produits.
Ah ouais, dis donc.
Et oui, quand même.
Et Florimond,
qui est
pâtissier, qui est dans le public, valide. Bravo. Merci Florimond.
Merci. Il croit que je raconte des conneries depuis 15 ans, moi.
Non, parce qu'on a des personnes de qualité dans ce restaurant ce soir. Outre, bien sûr, toutes les personnes qui sont autour de la table de Qu'est-ce qu'on déguste. On a vu que là-bas, il y avait Bernard Perron, sa femme adjointe à la culture et tous ses amis qui sont, à n'en pas douter, d'un... Et un autre restaurateur de Montpezat.
Il y a un autre restaurateur là-bas qui était vers Sainte-Maxime.
Ici, vous avez... Ici donc Florimond
est
pâtissier
chez Morane à Montauban.
Voilà.
Qu'on voit souvent sur Facebook.
Ouais. Enfin toi tu le vois sur Facebook parce que t'es son ami.
Ben oui.
Voilà.
Ouais. Mais c'est parce que c'est un pote à Patrick Combalbert.
Et monsieur.
On le voit souvent en Rio. Exactement.
Et monsieur. Je vais y arriver. Et monsieur est restaurateur où ?
Été restaurateur.
Été. Ah.
Seine-Maxime.
Est-ce qu'il peut pas avoir un micro ?
Bah, écoute, tu devais pas faire un micro-trottoir. C'est maintenant le micro-trottoir.
Non, mais moi,
il
ne
veut pas bosser, il mange
son oignon. Je peux pas bosser, je mange. Alors.
Oui, j'étais restaurateur à Sainte-Maxime pendant une trentaine d'années.
Mais Sainte-Maxime, c'est dans le Var, c'est produit de la mer, des choses comme ça.
Oui, on travaillait autre chose, mais des fois, j'ai été noté sur des recettes qui venaient vraiment du terroir. Mais on ne fait pas que de la bouillabaisse ou des dorades pêchées dans le Golfe, mais il nous arrive de cuisiner un peu autre chose.
Des endives au jambon.
Oui, par exemple.
La ficelle picarde.
Par exemple. Mais je suis content de partager cette soirée et très heureux d'être à la table de mon ami Vito.
Et c'est partagé.
Je dois dire que, ayant pratiqué ce métier, c'est vraiment honorable de faire ce genre de restauration comme ça. Et je lui demande de continuer encore longtemps parce que c'est vraiment très sympa de voir des jeunes qui croient leur métier comme ça.
Nous aussi, ça nous arrange qu'ils continuent.
Bravo. Merci Xavier, merci.
Bravo.
Si c'est ça, c'est du jazz. Hein.
Ça vous apprendra, tiens.
Ah non, pas encore.
Si, du jazz, puisque nous sommes dans la patrie d'un petit festival de jazz qui est celui de Bleu Trompette. Alain Boucher qui a fait tous les grands festivals, notamment celui de Santa Fe aux États-Unis, celui de la Nouvelle-Orléans, Montpezat, Marciac, Nice et plus. Là, fait le festival de Montpezat le 26 juillet. Et nous l'écoutons là dans un morceau qui s'appelle « Did I Remember ?» Thank you. Alain Boucher qui sera présent au Festival de Jazz Bleu Trompette le 26 juillet dans le morceau qui s'appelle Did I Remember.
Qu'est-ce qu'on déguste ? La suite. J'aimerais qu'on prenne un micro qui se balade là. Merci Joël, si tu veux bien. Et qu'on aille dans la salle du restaurant à la rencontre de Patrick Hainaut. Patrick Hainaut qui est le peintre qui expose dans la salle de la table du cardinal autour de nous.
Ah, il est là en plus.
Eh oui. Bonjour monsieur Hainaut, bonjour monsieur le peintre.
Oui, bonjour.
Je suis content de vous avoir parce que. Est-ce qu'il faut forcément toujours chercher à comprendre ce qu'il y a sur une toile qu'on regarde ?
Non. Où on aime, où on ressent quelque chose, il ne faut pas chercher à se compliquer la vie.
Il
ne
faut pas chercher à comprendre.
Non. Il n'y a rien à comprendre. Ou vous aimez, ou vous n'aimez pas. Mais c'est pas compliqué pour moi.
Vous leur donnez des noms à vos tableaux ?
Il y a eu une série en noir, blanc et or que vous pouvez voir. Sinon, le reste, non, il n'y a pas de nom.
Il n'y a pas de titre.
Non.
Celui-là, par exemple, que moi j'ai envie d'appeler, Rouge Trompette ou Corrida, j'hésite entre deux trucs. Là,
voilà, celui-là, il fait partie de la série Noir, Rouge et Or.
D'accord.
C'était une commande de mon épouse, je me suis exécuté.
D'accord. Mais pas spécialement, quand vous faites ça. Alors, parce que je vais essayer d'expliquer pour les auditeurs. On est devant des toiles qui sont... D'abord, qui ont de la matière. Hein, oui. C'est la peinture a du relief. Mm-hmm. Le fond est effectivement noir. Et dessus, on va dire que...
Il y a
du...
C'est quoi? C'est de l'acrylique?
De la peinture qui est en jeté, on va dire.
Absolument, qui est, hein, oui.
Voilà,
oui.
Et donc, qui est à la fois en tache, en traînée, en... En flash
mouvement,
comme ça,
en mouvement,
et en mouvement. Voilà. Votre technique pour faire ça, c'est quoi ?
Il va devenir le dig d'art.
Comme vous venez de le dire, en jeté, en grande partie, oui. Enfin, je fais un fond et après je jette.
En écoutant de la musique
Absolument, oui.
En écoutant du jazz, c'est
toujours,
vrai jazz,
surtout toujours. Du jazz.
C'est vrai. Qu'est-ce que vous écoutiez quand vous avez fait celui-là ?
Là, Miles Davis.
Miles Davis ?
Ah, bravo.
D'accord.
Bravo, voilà, connaisseur.
Eh ben ça, j'ai l'impression que ça transpire un peu, voilà. Alors j'hésitais, je vous ai dit, hein, entre Rouge Trompette et Corrida, mais voilà. Non, parce que c'est pour le rouge la Corrida.
Chacun peut y voir ce qu'il a envie d'y voir. Voilà, c'est pas compliqué.
Et vous exposez où, sinon, à part ici à la table du cardinal?
Très localement.
Très localement.
Dans ma famille.
D'accord.
Ils sont obligés.
Donc si vous voulez voir le travail de Patrick Hainaut, c'est ici à la table du cardinal chez Vito Alesi à Montpezac, ça se passe. Ça fait longtemps qu'on n'a pas trinqué. À la vôtre.
Bravo.
Chin chin.
Mais t'habites en face.
Non mais j'ai mal le tête, ce sera le même, hein.
Dans l'émission Qu'est-ce qu'on déguste, chaque semaine, nous avons un chroniqueur bande dessinée. Parfois, on se demande ce qu'il fait là.
Ouais. Il boit, il est pas là.
Il boit, il mange comme les autres. Hein.
Il présente une chronique de bande dessinée.
Ouais. Bah, c'est vrai.
Qui lit de la bande dessinée ici ?
Bah, moi.
Personne.
Voilà.
Moi.
Mais lui, il lit.
Bernard, apparemment.
Bernard Bouissou.
Personne.
Non, ça va te faire plaisir, juste Gaël, avant que tu commences ta chronique. C'est de savoir que monsieur et madame Bouissou m'ont parlé du bouquin que tu as présenté la semaine dernière.
Ouais.
Qui raconte l'histoire
de... La Romanée Conti ? Sur la Romanée Conti ?
Non, l'histoire de ce... Alors c'était pas la semaine dernière, c'était une autre fois. Qui raconte l'histoire de cette rencontre entre un vigneron...
Les ignorants.
Et un...
L'ignorant de Davodeau et...
De Davodeau.
Davodeau.
Tout seul, la rencontre avec Richard Leroy.
Voilà.
Non, Davodeau c'est le dessinateur et scénariste. Et c'est la rencontre avec Richard Leroy qui est vigneron et donc qui a un cépage particulier. Après, malheureusement, c'est vrai que c'est un truc qui reste un petit peu abstrait pour plein de gens, c'est que ces vins sont pas accessibles pour nous. Je pense que personne dans cette salle pourra dire un jour avoir goûté ces vins. C'est des vins qui sont vendus avant d'être mis en bouteille. Et ce sont des vins qui sont assez chers. Apparemment, c'est vraiment très bon. Mais le saura-t-on un jour?
Et pourquoi t'as pas demandé un service de presse?
Le service de presse en vin, ça marche pas tellement, quoi.
Moi, si vous faites un truc là-bas, je veux bien cuisiner. Si.
Ouais, je crois, ouais. Alors, là, ce
en
soir.
En tout honneur, bien sûr.
Là, ce soir, c'était un petit peu différent. Normalement, j'aurais dû faire la continuité, justement, de la série dont on a parlé la semaine dernière. Mais j'avais envie de faire un clin d'œil particulier à notre hôte, Vito, puisque j'ai choisi un livre de Pascal Rabaté et d'Emeric Mantoux, qui parle de Yannick Aleno. Alors, ce soir, on est reçu par Vito Alessi. Et donc là, c'était Aleno. Bon, il y avait ce petit clin d'œil. Et surtout, je crois qu'ils ont un parcours un petit peu similaire au départ, puisqu'ils sont tous les deux d'origine parisienne. Et Yannick Aleno, ses parents aussi avaient un bistrot. Et donc le scénariste, Emeric Mantoux, depuis plus de 10 ans, a suivi l'évolution de la cuisine de Yannick Aleno, des sous-sols du restaurant du Scribe, où s'accomplissent dans l'anonymat les petits gestes de la grande cuisine, au faste du Meurice, qui brille de ses trois étoiles. Il a assisté à l'avènement d'un des plus grands chefs contemporains. Emeric Mantoux, lui, est journaliste et rédacteur en chef à l'Optimum, peut-être un magazine que connaît peut-être Christophe. Ouais. Il est auteur de plusieurs essais sur la gastronomie et scénariste de bande dessinée. Quant à lui, Pascal Rabaté, le dessinateur, après avoir étudié la gravure à l'école des Beaux-Arts, se lance dans la bande dessinée en 89. À la fois scénariste et dessinateur, son adaptation en BD du roman Ibicus lui vaut un succès critique et un public notable qui lui permettent d'être considéré comme un grand auteur contemporain. Il s'est lancé par ailleurs avec succès dans le cinéma en 2010 avec Les Petits Ruisseaux, l'adaptation de sa BD du même nom. Si Yannick Aleno, chef 3 étoiles du Meurice, aujourd'hui à la tête d'un empire de 17 affaires sur 3 continents, a imposé avec force sa cuisine moderne sur le planisphère de la gastronomie, c'est en puisant dans ses racines et la culture de son terroir parisien populaire. Le dessinateur Pascal Rabaté s'est penché sur le destin exceptionnel de ce môme. Sans cliché, en privilégiant l'observation, il restitue ici un récit d'une humanité qui ne laissera personne indifférent. Moi, j'ai retrouvé, par exemple, pas mal de souvenirs des odeurs de cuisine de mon enfance, lorsque mes grands-mères faisaient à manger. J'ai beaucoup aimé la petite anecdote, la page 77, complètement d'actualité en ce moment. Aleno est alors, il faut savoir qu'il est employé au Drouan, qui est un célèbre resto parisien qui a vu en son temps le passage des Dumas, Renoir, Rodin, Pissarro. Et ce fameux jour, il reçoit donc une personnalité connue.
Alors, Grondard ne laissait pas tomber son équipe, si je puis dire. Appelez-moi le chef, il y a un problème. Alors on se demande qui c'est parce que le mec il n'est pas super bien dessiné ou alors il était jeune quand même.
À l'époque il était jeune.
Voilà. Le serveur dit bien monsieur. Et le serveur retourne en cuisine. Et en cuisine tout le monde s'affole parce que effectivement il y a un problème.
Ouais, apparemment Aleno a fait une connerie.
La porte s'ouvre, le serveur passe la tête. Monsieur Platini veut donc vous voir chef. Donc il s'agit de Michel Platini.
Oui, Michel Platini donc, le vrai.
Il trouve le plat raté. Qu'est-ce que t'as boutiqué? Je sais pas, j'y vais. Bonjour, monsieur Platini, dit le chef à Platini qui est assis. Et Platini lui répond, bonjour, il y a un souci, le plat est raté. Et le chef lui répond, écoutez, monsieur Platini, la cuisine, c'est comme les pénaltys en demi-finale de la Coupe du Monde. Des fois, on met à côté. Platini répond oui, et autant dire qu'on n'en a plus jamais entendu parler.
Ben oui. Alors, il faut rappeler le petit raté du pénalty de Platini dans la Coupe du Monde 86 qui nous avait fait éliminer vis-à-vis de l'Allemagne. Voilà. Alors, c'est donc un livre assez subtil et très tendre qui manque peut-être parfois un petit peu de folie. Ça s'appelle L'Enfant des Étoiles, c'est chez 12 bis, maintenant chez Glénat.
Tu sais, c'est bon à manger l'ail. Tu manges pas l'ail? Pourquoi tu manges pas l'ail?
J'ai tout mangé, justement. Ah, oui, Joël me demandait si j'avais tout mangé, mais oui.
C'est bon l'ail.
Après,
comme ça.
Bon.
C'est très bon.
Très bon.
Vito, tu es guitariste.
Oui. Oh, quel dommage.
Ouais. Tu joues de la guitare?
Ouais.
C'est une passion, quoi.
Alors, t'aurais aimé. Dans ma vie, j'ai plusieurs passions. Quel dommage. Tout d'abord, mon épouse. Elle gratte. Mes enfants. La cuisine, la musique, donc la guitare, et la moto. Voilà.
Et alors là, qu'est-ce qu'on fait avec cette guitare qui est posée devant nous?
Bah, je sais pas, je crois qu'elle est là pour faire joli, non?
On va faire de la moto, non?
Est-ce que t'es capable de nous faire quelques morceaux, un petit blind test comme ça, mais par contre, on a que 2 minutes.
Allez, on y va.
Allez,
en 2 minutes, un blind test.
Oh yeah.
Rock and roll.
Vito, allez-y, le chef de la table du cardinal. Attrape sa guitare électrique. Est-ce que tu lui as donné un petit nom à celle-ci? Ouais, elle a pas de nom ta guitare.
C'est ma guitare préférée. Voilà. C'est une Vigier guitare française, 7 cordes. Voilà, 7 cordes.
Oui, justement, ça m'a intrigué. Ouais.
Ah, c'est pour moi. Voilà. Donc, 7 cordes parce que. Bah parce que je suis guitariste de métal aussi.
7 voilà. cordes.
C'est pas du métal symphonique dont tu nous avais parlé.
Voilà. 7 cordes.
7 cordes pour le métal, c'est pour faire plus de bruit ou quoi?
Non, c'est plus pour d'accord. être plus gras. Plus gras, plus grave. Voilà. Non, et en plus, je suis accordé un ton plus bas.
Alors donc tu devrais essayer avec de la graisse de canard si tu veux faire plus gras.
Alors tu nous fais un blind test, non, qu'est-ce que tu nous fais?
Pascal,
qu'est-ce que tu nous fais? Ah oui, bah d'accord. Ah bah bravo.
Bon, cette guitare, c'est mon joujou, c'est mon joujou préféré, voilà. C'est une guitare française,
ça
Vigier.
Tombe. Là, tu tombes.
Alors, qu'est-ce qu'il faut faire?
Qu'est-ce qu'il faut faire? Je sais pas, vous allez.
Deviner les morceaux.
Vous allez deviner? Et puis on chante si vous devinez.
Allez.
On s'en fout, il pleut déjà.
Allez, knocking on Heaven's door, y'a raison. Knock, knock, knocking on the heaven's door. Hi, 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 yeah. Knock, knock, knocking on the heaven's door. Mama's take this batch for me. I can't use it anymore. It's getting dark, too dark for to see.
Il faut pas nous faire tout le morceau, Risso, hein, sinon on n'y arrive
c'est
pas.
C'est son rêve de passer la radio.
Knock, knock, knocking on the heaven's door.
Alors, non, une fois qu'on a trouvé, il faut pas tout faire. Un autre.
Ouais.
Bravo, madame.
We all came out to Montreux. How the Lake Geneva shoreline to make record with a mobile. We didn't have much time. Frank's up ahead, but more of we have the best place around. But sound stupid with a flake girl, burn the place to the ground. Hey, tout le monde!
Smoke on the water, the fire in the sky. Smoke on the water.
Je sais pas. Bravo, allez, une dernière pour la route.
Vous vous allez tous faire ça.
Alors pas là, ça va enchaîner. Voilà.
Le monde entier est un cactus. Il est impossible de s'asseoir. Dans la vie, il y a des cactus. Moi, je me pique de le savoir.
Aïe, aïe,
aïe. Oui.
Aïe.
Aïe, aïe, aïe. Et là, je pense à Aurélien qui peut plus faire le son. Tu vois, il n'y arrive pas. Bravo.
Bravo.
Merci à vous.
Est-ce qu'on peut voir le groupe de un des deux groupes de Vito, à savoir
Chicken Run
ou Omerta quelque part.
C'est un groupe que j'ai monté avec Richard. On est le noyau, on en est le noyau, et puis on
Richard,
invite.
Richard est là.
C'est le sommelier, bravo.
Vous avez la pêche, ouais. Et on invite divers musiciens à jouer avec nous. Et bon, à côté, on a un autre projet qui est plutôt power metal, metal progressif, qui s'appelle Omerta. Voilà.
Ouais, jamais programmé ça.
Power, à la tienne, Vito. Ouais,
bravo.
Alors, on va arriver au bout de cette émission, Vito. Alors pas au bout du repas, hein. Les auditeurs qui n'ont pas fait le déplacement jusqu'à la table du cardinal.
Ils n'auront pas le dessert.
Ils n'auront pas le dessert.
Ils n'ont qu'à venir.
Mais il va nous en parler quand même. Vito, dis-nous, raconte-nous ce qui nous attend après.
Ah bah, tu m'as mis la pression, il paraît qu'on a un super pâtissier. Donc,
T'as un super pâtissier.
Et là, Florian, et rien. Rien.
Florian de chez Morane.
Rien du tout, merci d'être venu.
Non mais il ne sait pas faire les glaces.
Non, voilà. Alors, ce qu'on a fait, j'ai appelé ça un délice abricot, donc, vu qu'on est en pleine période d'abricot ici dans le Quercy. C'est un dérivé de mousse bavaroise sur une génoise, humecté avec un alcool à base de vanille de Madagascar, et j'ai fait un sirop. Ouais, je sais que j'ai un pâtissier, c'est pour ça que j'ai la pression. Et j'ai fait un jus avec les abricots du Quercy. J'ai aussi fait rôtir quelques abricots du Quercy avec de la cassonade, mon cher Pascal. Et du beurre salé. Et j'ai assemblé tout ça. Donc on va goûter et ça sera accompagné d'une glace maison.
Jusque là, il s'est pas trop planté. Qu'est-ce que vous en pensez de ce repas?
Très bien. Très bien.
Voilà. Je pense qu'on peut l'applaudir, Vito. Et on va aussi dédier ces applaudissements à Cassandra qui vient de passer devant nous. Elle est là, Cassandra. À Richard qui est le sommelier, qui est là aussi. À Fabien qui est le second qui est en cuisine
Fabien,
là-bas.
Fabien qui a fait un super boulot ce soir.
Bravo à tout le monde.
Spécial dédicace à Catherine et Vito, allez-y. Merci à Bernard Bouissou et Nicole d'être venus du domaine de la Fage. Merci à vous d'être venus
ici. Tout le monde.
Bernard Perron, Madame le maire.
Et tous les autres.
On va créer des conflits, ça demande que ça.
Merci à Joël Mouriot pour Bleu Trompette qu'on a présenté lors de cette émission.
Merci Georges Bronfils pour la programmation.
Merci Georges.
Monsieur le directeur technique de Bleu Trompette.
Évidemment. Merci à Aurélien qui a assuré la partie technique de cette
et
émission.
Et c'était pas facile.
Et qui pour le coup mange toujours dans son coin là-bas derrière, un petit peu comme live. Voilà, mais il faut aussi penser à lui qui, sans lui, cette émission ne pourrait pas être diffusée.
C'est le 6ème,
le vendredi soir. Bravo, à 19h. Merci aux copains d'être venus. Et ben voilà,
c'était bonne soirée, bon week-end.
C'était Qu'est-ce qu'on déguste.
C'était bien. Et on part vers de nouvelles aventures parce que la semaine prochaine, on est.
La semaine prochaine, normalement, on est à Albi.
Pose guitare.
À pose guitare.
Mais ça va être dur.
Ça va être coton.
Merci. Salut à tous.
Salut. Alors heureusement que c'est que la fin de l'émission, mais pas la fin du repas. Hein, donc, mais on va du coup peut-être moins vous casser les oreilles. On va se mettre un petit fond de jazz. Ça vous branche? Un fond de jazz. Voilà. On se met un fond de jazz et puis vous allez arrêter de nous supporter, vous raconter plein de trucs et vous allez pouvoir être plus peinard aussi. Hein, du coup, voilà. Et nous aussi parce que du coup vous parlez fort.
Ouais, parce que vous avez fait du bruit quand même. Hein. Ça c'est vrai. Hein.
Qu'est-ce qu'on écoute, Georges? Qu'est-ce qu'on écoute? Hein? Mais annonce-le ce que c'est quand même. Là, juste comme ça.
Le titre que j'avais choisi tout à l'heure, c'était Did I Remember?
Mais c'est qui les artistes?
Bon, on est parti sur le titre numéro 1, c'est When Your Smile.
Devine.